Lu par Henri, donneur de voix numéro 318. Extrait du livre de Ken Follett, Notre-Dame, chez Robert Laffont. Paru dans Le Figaro. D'abord, nous nous sommes souvenus que Notre-Dame, parmi les nombreuses cathédrales qui existent, avait un statut spécial parce qu'elle est située au centre de Paris, qui est lui-même, au moment de sa construction au XIIe siècle, au centre de l'Europe. Carrefour commercial majeur et en expansion, son université attire des étudiants de nombreux pays. Ainsi bat alors le cœur de la culture européenne entre commerce et intelligence. De même, ce temps des cathédrales se révèle-t-il caractéristique de l'esprit européen par les échanges internationaux qu'il permet dès lors. Souvent, une innovation, apparaissant dans une église française, surgit 4 ou 5 ans plus tard de l'autre côté de la Manche. N'oublions pas que le maître d'œuvre de la première cathédrale d'Angleterre, celle de Canterbury, était français, Guillaume de Sens. Là réside aussi peut-être la raison pour laquelle tant d'étrangers ont été touchés ce printemps 2019 par le drame de Notre-Dame, qu'ils considèrent comme leur héritage au même titre que celui de la nation française. Ensuite, Notre-Dame est une œuvre d'art collective. Même s'il existe un maître maçon qui en a dessiné les plans de base, mais dont nous ignorons le nom, il s'est appuyé sur une armée d'artistes et d'artisans possédant chacun une technique, un talent et une imagination personnelle. C'est bien l'agrégation de leurs compétences, voire de leur génie, qui fait de ce lieu un chef-d'œuvre, et presque un miracle, car, comme pour un film qui fait appel à un réalisateur, des acteurs, des costumiers, des décorateurs, des éclairagistes, des preneurs de son, des cadreurs, il suffit qu'un seul exécute mal son travail pour tout gâcher. C'est pour cette raison que j'ai une admiration toute particulière pour les arts collectifs. Cela fait de moi un homme de gauche, mais pas trop. L'âge venu, les notions de transmission et d'héritage me semblent bien aussi importantes. Quand on est jeune, on est tourné vers l'avenir. On est attiré par les nouveautés dans les arts, dans la mode, dans la littérature. Et puis, on commence à regarder le passé et on est fasciné, finalement, par les vieilles choses, l'histoire ancienne, le patrimoine. On comprend au fond son importance, y compris pour bâtir son avenir. J'ai comparé la construction d'une cathédrale au lancement d'une fusée spatiale, parce qu'elle demandait le même engagement d'une société tout entière, incitait à l'invention de technologies de pointe et apportait des bénéfices au pays. Mais toutes ces raisons n'expliquent pas pourquoi on se lançait dans une telle aventure. S'y ajoutait un autre élément, spirituel, l'aspiration à quelque chose qui dépasse la vie matérielle. Je dis cela avec d'autant plus de liberté que je suis moi-même athée. Mais quand je m'assois dans une cathédrale, je sens une force spirituelle m'envahir. Je me dis que pendant des siècles, des hommes et des femmes se sont assis au même endroit et ont fait la même chose que moi. Penser, regarder l'architecture, écouter la musique, les chants ou les prières, ressentir une forme de paix intérieure. Et pour vivre cela, nulle obligation d'être catholique, ni même croyant. Même si notre époque est déspiritualisée, chacun a le sentiment que Notre-Dame de Paris lui appartient, ou qu'il appartient à Notre-Dame de Paris.